Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais ouvrir avec vous la parole du Seigneur et nous allons aller dans le Nouveau Testament et lire dans la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième épître aux Corinthiens. Alors, pour vous aider, la deuxième épître aux Corinthiens, c'est juste après la première épître aux Corinthiens. Voilà. Donc, ne dites pas que je ne vous aide pas. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 4e. Et le verset 1er, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit, sous l'inspiration de l'Esprit, et il dit ceci, c'est pourquoi, alors, il faudrait lire ce qui est au-dessus, mais je vous fais un résumé. Paul parle de son ministère et du ministère de la Nouvelle Alliance, et bien de révéler Jésus-Christ, il est le Sauveur, et par lui nous sommes réconciliés. Et il nous est dit, c'est pourquoi ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Christ les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Gloire à Dieu. C'est riche, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? Il y a de quoi développer. Si quelqu'un pensait encore que la foi chrétienne, c'est quelque chose qui a peu de valeur ou qui repose sur un vague sentiment spirituel ou de la superstition, non, non, rejetez tout de suite cette idée. La foi en Christ, elle est construite eh bien, sur une révélation de Jésus, sur un enseignement, une doctrine eh bien, qui est bien identifiée. Et ici, voyons Paul qui parle eh bien, aux Corinthiens et cette deuxième épître, je vous invite vraiment à la lire, elle fait partie des épîtres les plus intimes, j'allais dire les plus personnelles de l'apôtre Paul. Paul parle d'une manière tout à fait particulière avec Timothée dans sa première et sa seconde épître à Timothée. Voilà, il y a des liens presque filiales entre tous les deux et ils se confient. Mais ici, c'est à la dimension d'une église parce qu'en fait, Paul possède une histoire personnel riche avec l'église de Corinthe. C'est lui, en quelque sorte, qui en est à l'origine. C'est lui qui a prêché le premier, eh bien, l'évangile dans la ville de Corinthe. On voit ça dans le livre des Actes, au chapitre 17. Et là, dans un état un petit peu de découragement, eh bien, il sera renouvelé dans ses forces pour apporter le conseil de Dieu. Et une église, eh bien, va apparaître. Il va rester un an et demi dans ce qui était pour lui un temps assez long. Et puis ensuite, il va résoudre un problème dans cette église alors qu'il est ailleurs, il est à Éphèse. L'église connaît des divisions assez particulières, c'est toujours terrible hein, quand il y a des frères et des sœurs qui se divisent. En fait, ces frères et ces sœurs étaient sous l'influence de personnes qui les divisaient. Et Paul va résoudre le problème à distance. Alors qu'il est à Éphèse, il envoie une épître et il ramène toute l'assemblée à élever Jésus, à s'éloigner et à identifier les diviseurs et à les rejeter. Il pose une question, tandis que tous sont en train de dire « Mais moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jésus-Christ. » Voilà, il y a des plus, voilà et tout le monde s'affrontait au nom du Seigneur. Et Paul pose une question. Vous savez, par une question, il résout le problème. Vous savez ce que c'est cette question ? Ben, dites-moi, Christ est-il divisé ? Ah non, Jésus, il ne divise pas. Il unit. Alors comment ça se fait que vous êtes divisé ? Si vous êtes divisé, c'est que vous n'êtes pas sous l'influence du Saint-Esprit. Ah, on n'y avait pas pensé. Et alors, Paul va parler de l'organisation des réunions, des dons spirituels, même de la façon de s'habiller, pour qu'à chaque fois Jésus soit glorifié, que son frère ou sa sœur ne soit pas scandalisée. Et cette église eh bien, va se reconstruire. Il y aura quand même, dans cette église, eh bien, des blessures. Parce que quand il y a des conflits comme ça, il y a toujours des traces. Et la deuxième épître aux Corinthiens, eh bien, cette épître personnelle, en réalité, eh bien, elle est là pour penser les blessures, pour guérir, pour consoler. On n'a pas eu le temps de tout lire, mais si vous allez dans le chapitre premier de cette seconde épître, Paul parle de la consolation. Il dit que Dieu, c'est le Dieu de toute consolation. Peut-être que quelqu'un a besoin d'être consolé ce matin. Le Seigneur veut te consoler. Alléluia. Te dire que tu n'es pas seul. Penser tes plaies. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, eh bien que par l'objet des consolations dont nous sommes l'objet des consolations de la part de Dieu, eh bien, en raison de cette consolation que nous éprouvons, nous pouvons également nous-mêmes consoler ceux qui souffrent. Alléluia. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans ce texte, vous avez remarqué, donc Paul parle eh bien d'intimité, de ce qui se passe à l'intérieur de nos vies. Un Corinthien, d'une certaine manière, ça parlait, voilà, l'extérieur, voilà comment il faut faire. Mais il y a des blessures qui sont à l'intérieur. Et vous avez remarqué dans ce texte, l'apôtre Paul parle, il dit ceci, nous ne perdons pas courage et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, ou en grec, l'intérieur de nous, eh bien, se renouvelle de jour en jour. Et c'est de cela, en quelques mots, dont je voudrais vous parler ce matin. Ton être intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ? Je voudrais que nous puissions parler de cet homme intérieur. C'est la doctrine, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne sur cela. Je voudrais qu'on vous pourrait parler alors de la vie de cet homme intérieur, la vie intérieure. Qu'on ait le temps aussi de parler de guérison intérieure. Vous avez remarqué qu'il en parle, l'apôtre Paul. Il est blessé. Enfin, vous avez lu avec moi, pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non en abandonné. Ah, il en essuie des coups, oui ou non ? Et pourtant, il dit, on ne perd pas courage. On ne perd pas courage. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une guérison qui se fait. Il y a une victoire, une délivrance qui se fait à l'intérieur. Et il connaît une victoire également intérieure. Alléluia. Alors, je voudrais parler de cette expression de l'homme intérieur. Vous pouvez la retrouver dans Romains 7, au chapitre 22, au chapitre 7, verset 22 des Romains, mais dans Éphésiens également. Je vous lis Éphésiens 3:16, il nous est dit ceci, Paul prie en disant que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, eh bien, par la foi. Donc, on s'aperçoit que Paul voilà, ne se trompe pas, c'est une pensée qui revient sans cesse de notre vie intérieure, de notre homme intérieur. Et il fait même la distinction, on comprend bien, l'homme extérieur, c'est notre enveloppe, c'est le rapport que nous avons au monde, c'est tout ce qui peut être matériel. Et puis, il y a ce qui est spirituel, c'est l'homme intérieur. Et vous avez remarqué que lorsqu'il parle de son ministère, il dit que Dieu lui a confié un immense trésor, c'est-à-dire Jésus communiquait eh bien, cette grâce de Dieu manifestée, mais lui, il dit ceci, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Et il parle bien sûr de sa fragilité, mais un vase, en réalité, l'apparence compte peu, mais c'est surtout un contenant et c'est son contenu qui nous importe. Mais il a de la valeur en fonction de ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Et les uns et les autres, nous pouvons également considérer que c'est vrai que la vie chrétienne n'a de valeur que pour ce que nous avons reçu dans nos cœurs. Alléluia! Amen! Et comme on le disait tout à l'heure, on le lisait, des choses qui ne sont pas forcément visibles avec les yeux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia ! Ce ne sont pas des choses visibles, ça. C'est spirituel. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce n'est pas encore pleinement manifesté, mais on sait qu'on l'a, Vincent. Alléluia, amen. Amen, gloire à Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. La foi qui est un don. Mais alors, bien sûr, il y a des œuvres qui manifestent notre foi, mais d'abord, la foi, c'est quelque chose eh bien, d'intérieur, c'est quelque chose de spirituel. Et vous le savez comme moi, concernant notre Dieu, ce qui est important pour lui, ce n'est pas l'apparence, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et généralement, ce qui se passe à l'intérieur rejaillit sur l'extérieur. Parfois, nous, on voudrait bien changer la forme, changer voilà, ceci, cela. Il faudrait que ce soit plus comme ci, plus comme ça. Là, même ce matin, voilà, on n'a pas tous une cravate, mais moi, j'en ai mis une. Voilà, c'est dimanche, j'aime bien. Voilà, gloire à Dieu. Mais si un frère t'est rempli du Saint-Esprit et nous prêche en t-shirt ou en polo, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Voilà. Bien sûr, on veut bien se présenter parce qu'on a du respect les uns pour les autres. Mais nous comprenons que ce qui est important, c'est pas l'apparence, c'est ce qui est à l'intérieur. Et surtout nous, mes frères et sœurs, qui connaissons Jésus, qui avons fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, l'Écriture nous met en garde de face à l'apparence des choses. Concernant Jésus, Ésaïe dira, Ésaïe 53, verset 2, il dit ceci, « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ben dis donc, en termes de com, ça ne marche pas. Hein. Le site internet, il n'est pas bien au point. Hein. Sur Instagram, ça ne passe pas trop. Hein. « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et regardez, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, malgré toutes les apparences qui étaient contre lui, c'est lui le sauveur. Parce qu'à la croix, il a porté nos souffrances. Mon frère, ma sœur, cher ami, il s'est chargé de tes douleurs. Tu l'as peut-être considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités, et le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous comprenons combien eh bien, cela est important. Et puis, cette vie intérieure, elle est centrale. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est central, même dans l'enseignement du Seigneur Jésus. En préparant ces moments, bien sûr, je relisais plusieurs références, plusieurs textes des Écritures. Mais par exemple, lorsque le Seigneur parle de la prière, on aime élever notre voix. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire. Dieu nous a donné une bouche et on peut louer le Seigneur à haute voix. Mais attention quand même à certains excès, parce que regardez, l'Écriture nous dit ceci, Matthieu chapitre 6 et verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. » Ah, on peut prier hypocritement, Seigneur ? Ah oui, On peut prier. Avoir l'apparence de quelqu'un qui prie beaucoup. Mais que l'apparence. Hein. Et il nous est dit ceci. Ceux qui aiment prier debout, dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Et je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Alléluia. Et nous savons que ce qui se passe à l'intérieur du cœur de l'homme, c'est ça qui est important pour le Seigneur. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, quand le prophète Samuel s'approche d'Éliab, qui il le pressent pour être un roi en Israël, et Dieu lui dit par son Esprit Saint, il lui dit, mais ne le regarde pas, je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde à quoi ? Il regarde au cœur, c'est-à-dire à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alléluia ! Et le Seigneur est celui qui est capable de sonder nos cœurs, de sonder nos vies. Et ce matin, nous voulons comprendre que c'est cette vie intérieure, c'est cet être intérieur, c'est à cette vie intérieure que le Seigneur s'intéresse. Je crois que le Seigneur nous a parlé dans ces moments. Il y a un frère qui, il y a quelque temps en arrière, m'a dit ceci, il va se reconnaître. Quand je dis ça, ce n'est pas que je révèle un secret. Hein. Mais c'est une conversation qui nous concerne. Et il m'a dit ceci, Emmanuel, tu ne penses pas que pendant le temps de la Sainte-Seine, on ne pourrait pas avoir aussi... Parce que systématiquement, on chante un chant. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi un temps où on ne chante pas ? Je lui ai dit, oui, pourquoi pas ? Ce n'est pas interdit de chanter, ce n'est pas interdit non plus de ne pas chanter. Dans la chambre haute, Jésus a chanté les cantiques aussi. Hein. Voilà, il y avait des psaumes à chanter. Et puis ce matin, vous avez remarqué, on n'a pas chanté. Je me suis tourné vers Guillaume qui avait préparé son chant, il m'a dit, je ne le sens pas. Et je crois que le Seigneur nous a fait du bien quand même. Amen, alléluia. Dans ce culte, on a parlé au travers de tous ces chants d'être dans la maison du Seigneur. Vous l'avez remarqué avec moi ça, hein ? D'être dans la maison de Dieu. Pas être dehors, mais être dedans. Et c'est vrai que si on est invité chez quelqu'un et qu'on met la musique à fond, on ne va pas vraiment s'entendre. Vous voyez ? Et je crois qu'il y a besoin aussi parfois de temps de silence. Où j'en suis avec le Seigneur. Seigneur, mon être intérieur, il en est où ? Je m'active, je vais dans toutes les directions, mais Seigneur, en réalité, je veux me souvenir que ton but quand même premier, c'est de changer mon cœur, d'enlever de mon cœur un cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair. C'est ça la nouvelle alliance, alléluia. Même quelqu'un a prié ce matin en disant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est à l'intérieur que ça se passe, ça. Le Saint-Esprit, il habite en nous, alléluia. Et l'apôtre Paul parle de cet homme intérieur. Et combien il est certainement important dans le siècle matérialiste dans lequel nous vivons de mesurer l'importance dans la vie chrétienne, que l'importance qu'a notre vie intérieure, notre homme intérieur. Et l'apôtre Paul pourra dire, mais en nous, il y a un trésor. Mon être intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Et je voudrais te poser cette question, mon frère, ma sœur, ainsi qu'à moi-même, parce que nous sommes tous ensemble. Tu en es où dans ta vie intérieure ? Elle en est où ? Il en est où, ton homme intérieur ? Je ne te dis pas ta santé, si tu arrives à courir pendant une heure et faire 8 kilomètres, ou c'est pas ça. Je ne te demande pas de savoir si tu as été augmenté, si la fiche de salaire, elle te convient, ou si les voisins, ils vont bien. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Parce que tu sais que toutes ces choses que tu vois, elles sont passagères. Mais les choses invisibles que Dieu te révèle par son esprit, par sa parole, c'est ça qui va durer pour l'éternité. Alléluia. Et nous avons besoin de le considérer. Et c'est pour cela que j'avance en vous parlant en deuxième point. De cette vie intérieure. Et nous voyons, mes frères et sœurs, qu'en ce qui concerne l'apôtre Paul, qui est quand même pour nous un témoin de ce que doit être la vie chrétienne, la vie spirituelle, elle est riche. Elle est riche. Cette semaine, j'ai relu un passage qui m'a... Je me dis, Seigneur, la dimension de cet homme de Dieu. Vous voyez, parfois, on s'habitue à lire la Bible et on oublie quand même que Dieu s'est servi d'homme, qu'il a rempli de son esprit pour nous laisser le témoignage de ce que ça veut dire marcher avec Jésus. Et nous, on le lit un peu normalement, mais quand même, il y a eu des hommes qui ont eu, et je pense particulièrement à Paul, on ne veut pas le déifier, c'est un homme de la même nature que nous, mais quand même, il a veillé sur sa vie spirituelle pour qu'il nous communique des choses glorieuses, alléluia. Et dans Éphésiens, au chapitre 3, il dira ceci, au chapitre 3 et au verset 3, il dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » L'intelligence. Il n'est pas orgueilleux quand il dit ça. D'ailleurs, si il est porté à l'orgueil, le Seigneur lui a mis une écharde dans la chair pour l'humilier, afin que il s'humilie devant le Seigneur et qu'il cherche toujours à être relevé par Jésus, qu'il comprenne bien que ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu. Mais quand même, vous avez l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu, c'est savoir eh bien, Jésus-Christ. Et je voudrais te poser cette question, mais mon frère, ma sœur, dans quel état se trouve ta vie intérieure? Est-ce qu'il y a une vie tout d'abord? Est-ce que ça vit à l'intérieur? Est-ce que le Seigneur te parle? Est-ce que sa parole suscite en toi une émotion? Est-ce qu'il y a une onction? Est-ce que Dieu te communique sa pensée? Vous savez, parce que notre Dieu, il est vivant. Il n'est pas mort. Dans la Bible, il y a des gens, c'était les disciples d'Emmaüs, ils n'avaient pas compris que la mort et la résurrection du Seigneur. Vous vous souvenez de ça? Ils étaient arrêtés, Jésus est mort à Golgotha, on l'a mis dans un tombeau, voilà, ce point, il est mort. Il y a des femmes le matin, alors qu'ils sont venus nous dire qu'il est ressuscité, elles l'ont vu, mais nous, ce sont que des femmes de toute façon. Ah, c'est comme ça, hein, dans le monde antique. Hein. Et puis il y a quelqu'un qui s'approche d'eux, mais pourquoi vous êtes tout tristes, etc. Alors il leur raconte leur malaise, et puis la personne qui n'identifie pas trop, il leur parle, mais enfin, vous savez, le Christ, il devait souffrir, il devait mourir pour nous racheter de nos péchés, etc. Et puis ressusciter, vaincre la mort, le diable, et répandre le Saint-Esprit, etc. Et tandis qu'il leur parle en chemin, il y a une flamme en moi, réchauffe mon cœur, vous connaissez? Hein? Et là, il se dit, mais Seigneur, tu remets la vie. Et ils prennent le pain et le vin à l'intérieur de la maison, et ils reconnaissent que lui qui leur parlait, cet étranger qu'ils n'avaient pas reconnu, ce compagnon de voyage, que peut-être tu n'as pas identifié dans cette semaine. Tu étais au bout du rouleau, tu étais vide, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des paroles qui ont été amenées dans ton cœur, des pensées qui t'ont fortifié, qui t'ont visité. Ça t'a permis, malgré les larmes, de tenir et de te présenter. Je voudrais te dire que cet étranger, celui que tu avais oublié, c'est Jésus. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui agit dans ton cœur. Amen. Alléluia. Pour ressusciter la vie en toi. Alléluia. Et l'Écriture nous dit que nous avons besoin de cette vie intérieure. Nous avons besoin de cette communion avec Dieu. Nous avons besoin d'être exhortés intérieurement. Mais une des conditions, sinon la première condition pour que nous puissions recevoir, que nous puissions avoir cette vie intérieure, c'est que tout d'abord, ton cœur soit pur. C'est que l'intérieur du vase soit propre. Vous savez, Jésus dira encore sur l'apparence à certains pharisiens hypocrites, vous avez une belle apparence, mais vous êtes comme des tombeaux blanchis à la chaux, des sépulcres. Eh bien, quand on les voit, c'est magnifique, ça brille. Mais à l'intérieur, on n'oublie pas que c'est rempli d'impureté, c'est la mort à l'intérieur. Et Jésus, peut-être, parle à quelqu'un ce soir, ce matin, pour lui dire, mais laisse-moi entrer dans ta vie, laisse-moi te pardonner. Laisse-moi te purifier, tu dis que tu ne ressens plus ma présence. Mais pourquoi alors Mais tu n'as pas fait le rapport entre ne plus ressentir la présence de Dieu dans ta vie et la rancune que tu tiens dans ton cœur. Tu ne t'aperçois plus que ces choses font obstacle à l'action du Saint-Esprit. Mais ouvre ton cœur afin que je le purifie, afin que je te pardonne, que tu considères que mon sang a coulé pour toi et que toi aussi, tu te mettes à pardonner, à aimer comme je t'ai aimé. On ne peut pas aimer comme Jésus aime si d'abord on ne se laisse pas aimer par Jésus. Alléluia. Mais Seigneur, si je t'ouvre le couvercle de mon cœur, il y a des choses, ça va pas sentir bon. Hein. Mais peut-être que tu t'en aperçois même pas, ça sent déjà pas bon. Il y a quelques temps, il y a quelques années, on habitait Cécine et Parisé. C'est Grenoble. On était partis en vacances. Et ce jour-là, on part en vacances. C'est bien les vacances. Vous aimez les vacances? Bon, vous avez le droit de dire oui. Hein. Voilà, hein. Moi, je pars en vacances et je coupe l'électricité. Je ne sais pas pourquoi. Je coupe l'électricité. On revient 3 semaines plus tard. On habitait au troisième étage. Troisième ou quatrième? Cinquième étage. J'ouvre le... On était tout en bas. Il y a une sale odeur quand même dans cet appart-là, dans cet immeuble. Et plus on monte, plus ça sent mauvais. Oh là là. Vous savez qu'on avait un congélateur. Vous m'avez compris, hein? Une puanteur. Les pauvres voisins. Les pauvres voisins. Et on a dû ouvrir... On a dû, laver, désinfecter, etc. Vous comprenez. Bon, bref, etc. Mais l'œuvre de Jésus, c'est de purifier nos cœurs. Le lépreux. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus n'a pas honte de son impureté. Il est venu pour ça, pour le purifier. Je le veux, sois pur. Instantanément, il est purifié, pardonné de ses péchés, de sa lèpre. Et Jésus lui dit, va te montrer au sacrificateur pour que tu rentres dans ma maison, qu'il t'inspecte. Ah, il est pur, tu peux entrer dans le temple. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et ensuite, bien sûr, eh bien, cette vie, une fois que, eh bien, on l'a reçue, une fois que, eh bien, on a cette communion avec le Seigneur, mais il faut l'alimenter, il faut pas l'oublier. L'Écriture nous dit, par exemple, Colossiens 3:16, que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous. Il nous est dit, entretenez-vous, voyez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Il faut nourrir cette vie spirituelle. Et en comprenant une chose, mes frères et sœurs, que si j'ai cette vie, la vie de Dieu en moi, si tu as cette vie, alors Dieu peut t'utiliser. Dieu ne va pas utiliser quelqu'un qui ne vit rien. Qu'est-ce que tu vas faire vivre aux autres? Si tu n'as pas une vie de prière, mais... Alors, je ne sais pas, moi. Tu sais, tu es esclave de ton portable. Tu devrais arrêter, Guillaume. Et tu ne crois pas? Non, mais... Vous avez compris? Si je veux que ma parole ait une autorité, il faut que moi-même aussi, je sois libre. Et on ne peut pas faire vivre quelque chose à quelqu'un si on ne le vit pas soi-même. Ce que j'ai reçu, je te le donne, dira l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Et il va relever eh bien, un homme qui sera eh bien, boiteux de naissance. Vous connaissez eh bien, ce texte de l'Écriture. Donc, nous avons besoin eh bien, de revenir à une vie intérieure de qualité, afin que le Seigneur place en toi ce trésor, afin que le Seigneur te rende la joie du salut, afin que eh bien, tu sois un instrument entre les mains de Dieu, un vase d'honneur, alléluia, tu en as besoin. Je voudrais te dire, l'Église en a besoin. L'Église, c'est une composante de membres. Si un des éléments est en mauvaise santé, vous le savez bien dans votre corps, s'il y a un truc qui ne va pas, même si le foie n'est pas concerné, mais ça va quand même pâtir sur tout le reste. Il y a un kiné parmi nous pour nous expliquer mieux ça, mieux que moi. Et le monde en a besoin. Ton voisin, tes enfants qui ne sont pas encore au Seigneur ont besoin de considérer que dans leurs parents, mon voisin, mais c'est vraiment un homme, une femme qui aime Dieu. Il a une vie spirituelle de qualité. C'est pas simplement le dimanche matin, mais c'est arrosé tous les jours de sa vie. Et il y a quelque chose qui se passe. Quand il me parle, j'ai l'impression que il vit des choses que je ne vis pas, moi. J'aimerais tellement le vivre. Comment tu fais pour le vivre? Vous savez qu'il y a une chrétienne à Grenoble, ben, il me fait penser à Grenoble en ce moment, hein, voilà, qui était comme ça. Elle avait retrouvé la joie de vivre et alors, elle avait gardé ça un peu secret. Et voilà, et pourtant elle était déprimée avant, mais depuis quelques temps, et sa voisine, elle la regardait, et elle la voyait s'en aller le dimanche matin, elle ne le faisait pas avant, et puis le mardi soir, le jeudi, tout ça, mais qu'est-ce que c'est que ce trafic? Et elle attendait qu'elle lui en parle, elle ne lui en parlait pas, et un jour, elle a dit, un dimanche matin, elle, dit, elle sort elle-même, elle s'était préparée, et comme un agent secret, à 50 mètres, elle l'a suivait. Elle a vu comme ça, tac, elle a vu rentrer, tac, dans une salle. C'est une église comme la nôtre. Oh, c'est là qu'elle va. Et elle est rentrée elle-même. Et elle-même, elle a donné son cœur au Seigneur. Je me souviens parce que toutes les deux, il y en avait une qui était en EHPAD et l'autre, elle était encore à la maison. Alors, je les avais amenées à l'EHPAD. Ça avait duré, je ne sais pas combien de temps, les retrouvailles. Voilà. Et elle s'était souvenue tout ça, comment l'une avait amené l'autre au Seigneur. Alléluia! Mais gloire à Dieu, amen. Avoir cette vie, alléluia. Oui, Jésus m'a pardonné. Oui, Jésus m'a purifié de mes péchés. Oui, il m'a donné cette victoire sur le diable, sur le péché, sur la mort. Alléluia. Mais je voudrais avancer quelques instants encore pour vous dire que à l'intérieur, peut-être que quelqu'un dit oui, Seigneur, oui, c'est vrai, pasteur, la vie, l'homme intérieur, la vie intérieure, oui. Mais parle-nous aussi de la guérison intérieure, la guérison intérieure. Je vous ai dit tout à l'heure que l'apôtre Paul, il est très intime avec cette épître, dans cette épître. Il parle de souffrances qui sont à l'intérieur de lui. Vous avez remarqué dans ce texte comment il nous dit qu'il ne se confie pas à tous de cette façon-là. Il dit, voilà, abattu mais non perdu, portant toujours avec nous la mort du Seigneur Jésus. Quand on voit un petit peu les souffrances de l'apôtre Paul, et sans peut-être entrer dans cette dimension des souffrances de l'apôtre Paul, mais on sait que chacun d'entre nous qui voulons marcher avec le Seigneur Jésus, nous savons qu'il y a des épreuves. Si quelqu'un n'a pas d'épreuves, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'un chrétien, il est dans un monde qui rejette Jésus. Si tu ne sens pas ce rejet, si tu sens pas, c'est qu'il y a un problème. On est la lumière du monde dans un monde qui est dans les ténèbres. Et quand on accepte le Seigneur, bien forcément, on rencontre de l'opposition, on rencontre des combats. Mais l'Écriture nous dit, dans le désert que tu traverses, dans les épreuves eh bien, dans lesquelles tu peux te trouver, ton Dieu se nomme l'Éternel qui te guérit. Yahvé Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. Et une des guérisons dont nous avons le plus besoin, c'est une guérison intérieure. Vous savez, le français parle de bleu de l'âme, quand on est passé par une épreuve, une séparation, un deuil, des choses où on a pu se faire insulter, où il y a des injustices qui se sont produites, du mépris, et toutes sortes de choses. Alors on sait que le Seigneur guérit les cœurs brisés, ça fait partie du ministère du Seigneur, il est le consolateur, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On ne va pas le lire, mais vous trouverez dans Marc 1 une femme, pour moi, qui a le cœur brisé. C'est la belle-mère de Pierre. Elle a certainement un certain âge. Si elle vit chez son gendre, c'est qu'elle est veuve. Jésus est dans la synagogue, il y a des miracles. Les démons sont chassés, la vérité est répandue. Mais elle est malade, elle a la fièvre. Et elle est placée dans un coin, là. Personne ne s'occupe d'elle jusqu'à ce que Jésus entre dans la maison. Et là... le Seigneur, alors qu'on lui dit, voilà, elle est malade, ma belle-mère, il lui prend la main, le Seigneur, son activité qui est perdue. La fièvre est chassée en son nom, elle se lève et elle se met à servir le Seigneur. Alléluia. Moi qui étais oublié, moi qui étais mise dans un côté d'une pièce, eh bien, le Seigneur a posé ses regards sur moi. Alléluia. Comme Marie, je suis la servante de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et combien le Seigneur a fait ça pour nous. Amen. pour nous, certains qui étaient mis comme un peu des rebuts, voilà, avec ce que tu as fait, mais tu es utile, tu es propre à rien. Mais ça, c'est le regard des hommes. Le regard de Dieu, il est complètement différent. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu même utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Alléluia. Et on bénit le Seigneur. Amen. Et il utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Alors, oui, Jésus, eh bien, guérit les cœurs brisés, mais un croyant qui est passé par toutes sortes de vexations, et je pense à Paul, mais à d'autres peut-être, et au milieu de nous. Mais ta guérison va provenir de celui qui a vaincu la mort, de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a souffert tous les coups, toutes les blessures, non seulement physiques, mais intérieures, la trahison, la calomnie, le mensonge, les faux témoignages, c'est bien lui, et pourtant ressuscité, glorifié. Alors, il y a quand même une condition, et on va terminer par ça. Cette condition à laquelle je voudrais que nous puissions nous arrêter. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, Seigneur, mais au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mais comment tu fais, Paul ? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles, ce que ce monde peut procurer ou ce qu'il ne peut pas procurer, l'analyser, c'est bien de s'informer. Je suis comme vous, moi j'aime m'informer, mais l'Écriture me dit quand même, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que l'amour, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15 et 16. Et tout cela pour nous dire que nous sommes sans cesse sollicités pour considérer les choses visibles. Et c'est vrai qu'il y a des choses importantes sur cette terre, mais ce n'est pas ça qui va nourrir notre âme. Ce n'est pas cela qui va spirituellement te rendre fort, te permettre d'avancer. Et l'apôtre Paul nous donne ce secret. Non, nous, on ne regarde pas aux choses visibles. Nous, on regarde aux choses qui sont invisibles, celles qui sont éternelles, celles que le Seigneur nous a révélées par son esprit. Alléluia ! On n'a pas le temps de le lire. Mais si vous lisez, relisez attentivement 2 Timothée, où Paul parle de son départ, mais avec une précision, il parle du plan de Dieu. Il est en prison, il aurait pu se plaindre de plein de choses, de l'iniquité, du pouvoir romain, l'injustice sociale, et patati et patata, les droits de l'homme. Il ne parle pas de ça. Il parle du plan de Dieu de toute éternité. Dieu avait prévu de nous donner un sauveur et de manifester en lui la vie, l'immortalité. Prêche l'évangile, prêche Christ. Souviens-toi de mes souffrances. Et il dira, il a la puissance de garder ce qu'il a déposé dans mon cœur, ma vie intérieure, jusqu'au moment où je le rencontrerai. Alléluia. Amen. Amen. Et ce soir, décidément, j'ai envie, je ne sais pas pourquoi, hein. Vous allez dire, il est fatigué, le pasteur. Non, c'est pas ça. Non, je t'ai entendu, André. Mais regardez à ces choses invisibles pour les hommes, invisibles pour les yeux, mais que le Seigneur nous révèle. Illumine, Seigneur, encore les yeux de mon cœur. Mais ça me guérit. Guérir, ça veut dire vaincre le mal. Le mal entre dans un corps, t'es malade, mal, maladie. La guérison, c'est la victoire sur le mal. Jésus guérit, te fait entrer dans une victoire qui est intérieure. Et parce que tu as cette victoire à l'intérieur, tu triomphes à l'extérieur. Je termine vraiment, hein, mais vraiment, hein, c'est mon dernier exemple. Il y a un homme qui a regardé aux choses invisibles, c'est Moïse. Et les jeunes, hier, on faisait Hébreux 11, mais Hébreux 11, 27 nous dit, parlant de Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi de Pharaon. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. que ce matin, on puisse dire, Seigneur, je ne veux pas me lamenter sur tout ce qui m'arrive, mais je veux regarder à celui qui tient toutes choses entre ses mains. L'Éternel règne. Il est majestueux. Alléluia. C'est ça qui compte, Seigneur. Amen. Et toi, Seigneur, eh bien, tu agis dans mon cœur et par ta grâce et par cette communion avec toi, tu me permets que ma vie intérieure, elle soit renouvelée de jour en jour. Amen. Soyez renouvelés, mes frères et sœurs. Faites en sorte que votre vie soit renouvelée par un attachement au Seigneur. Plusieurs d'entre nous, ici, dans ce lieu, on aime lire et relire la parole. On aime se rassembler. On aime prier et reprier et prier encore. Alléluia. Parce qu'on se renouvelle. On aime louer le Seigneur parce que Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple. On soigne son être intérieur. Tu te réveilles au milieu de la nuit, ben loue le Seigneur. Écoute un cantique si tu réveilles personne. Lis la parole de Dieu. Alléluia. Fais en sorte que ton être intérieur soit restauré. Alléluia. Mais si tu es sans arrêt en train de considérer à la voisine, elle a dit ceci, un tel, il a dit cela, et puis ceci, cela, tu as vu le prix de la baguette, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas non plus des considérations intéressantes, mais ce n'est pas ça qui va nourrir ton âme. Alléluia. Amen. Mais au contraire, eh bien, nous voulons considérer eh bien, les choses invisibles, celles que le Seigneur nous révèle par sa grâce. Amen. Alléluia. Alors, on va prier ensemble, Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Te louons, Seigneur, pour... ces quelques moments passés sous ton regard. Et nous comprenons, Seigneur, l'importance de la vie intérieure. Seigneur, peut-être que quelqu'un, ce matin, Seigneur, est venu en se posant des questions. Seigneur, en se disant, j'ai un travail, j'ai la santé, je suis marié, tout baigne. Mais... il me manque quelque chose. Il y a comme un vide. Et Seigneur, tu révèles peut-être à quelqu'un qui découvre ces choses, peut-être à quelqu'un, à un de tes enfants, Seigneur, que la vie intérieure a été négligée. Elle a été mise de côté. Et ce matin, Seigneur, nous découvrons le secret que ces hommes de Dieu nous laissent à travers de ta parole, que tu nous révèles par ton Saint-Esprit. C'est la qualité de notre vie intérieure. Et je te prie, Seigneur, afin que ce matin, Seigneur, nous puissions reconsidérer nos voies et dire, Seigneur, je veux prendre soin de ma vie intérieure, sur mes réactions, sur ce qui entre dans mon cœur. Parce que tu dis, Seigneur, que du cœur viennent les sources de la vie, Seigneur. C'est là que tu agis, c'est là que tu touches, c'est là que tu travailles. C'est à l'intérieur, au plus profond de notre être. Peut-être pour quelqu'un, c'est comme périmé à l'intérieur. C'est comme quelque chose de pourri, ça semble mauvais. Mais Seigneur, tu dis, ouvre-moi ton cœur. Je veux le purifier, je veux le changer. Tu en as le pouvoir, Seigneur. Et puis nous le savons bien, tu n'es pas là pour juger ni condamner, mais tu es là pour pardonner, sauver. Un jour viendra le temps du jugement, ça sera trop tard. Mais c'est le temps de la grâce. Et ce matin, on est rentré dans ce lieu comme dans ta maison, pour avoir un cœur à cœur avec toi. Alors je te prie afin que les cœurs s'ouvrent. Et que ce soir, Seigneur Jésus, tu fasses ton œuvre. Seigneur, que tu purifies. Et que peut-être, Seigneur, quelqu'un soit comme réhydraté, redynamisé. Que la vie de Dieu, repasse en lui. Seigneur, dans le nom de Jésus. Quelqu'un a-t-il besoin que l'on prie pour lui, pour elle, en disant, j'ai besoin que ma vie intérieure soit renouvelé. Alors, si vous avez le désir, compris pour vous, si vous en ressentez le besoin, donc voilà, vous pouvez lever votre main en disant, voilà, j'ai besoin. Oui, il y en a plusieurs qui lèvent leur main. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, si quelqu'un d'autre encore veut lever sa main en disant, j'ai besoin, oui, je t'ai vu. Oui, je vous ai vu. Gloire au Seigneur. Alors, je vais demander également à l'Église de prier. On est l'Église. Alléluia. On est les frères et les sœurs. C'est la prière de l'Église. Et nous voulons dire, Seigneur, nous voulons revenir à une vie spirituelle de qualité. Alléluia. Pas être des gens, j'allais dire, fanatiques ou déséquilibrés, mais des gens remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, encore ce matin, pour ces temps que nous pouvons vivre sous ton regard. Seigneur, nous sommes devant ta face, humblement, Seigneur, c'est toi que nous cherchons. Et Seigneur, lorsque nous lisons ta parole, nous réalisons, Seigneur, combien tu t'intéresses non pas à l'apparence des choses, mais aux motivations les plus secrètes, ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est même ta parole nous dit, mais c'est du cœur de l'homme que sortent toutes sortes de pensées, etc. Et c'est, Seigneur, du cœur de l'homme que peuvent sortir, Seigneur, le péché, l'immoralité. Tu nous dis bien que ce n'est pas la société, c'est le cœur de l'homme qui est corrompu. Alors, Seigneur, toi, tu veux changer, tu as la puissance de changer ce cœur. Et Seigneur, je te prie même pour un de tes enfants qui a négligé cette vie spirituelle. Et Seigneur, c'est comme, Seigneur, une rivière qui s'est déshydratée. Et c'est comme, Seigneur, un étang qui n'était plus alimenté. C'est en train de moisir, de périr. Seigneur, que la vie repasse ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui fortifie, tu es celui qui renouvelle, tu es celui qui donne, Seigneur, un élan nouveau, dans le nom de Jésus, alléluia. Et Seigneur mon Dieu, je te remercie pour la qualité de cette vie, parce que Seigneur, lorsque on a cette vie, Seigneur, eh bien on peut la communiquer autour de nous, dans le nom de Jésus, alléluia. Seigneur, je te prie afin que, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons sensibles à ta voix, et que nous puissions dire, Seigneur, mais je veux me remettre à la lecture de ta parole, à une vie de prière sérieuse, à une communion fraternelle, Seigneur, sur laquelle je vais veiller, dans le nom de Jésus, alléluia. C'est ta parole qui nous enseigne cela. Seigneur, dans le nom de Jésus, une vie spirituelle, une vie intérieure, alléluia. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions, Père Céleste, pour les victoires que tu donnes ce matin. Amen, dans le nom de Jésus. Amen.